avec nous. Midi 10 à Paris, c'est l'heure.
Midi 10 également à Bordeaux, c'était le journal de RFI. Merci beaucoup à eux. Vous écoutez le plat de résistance sur la clé des ondes. On est ensemble jusqu'à 13h et on parle aujourd'hui de sécurité sociale de l'alimentation. Alors qu'une expérimentation locale à Bordeaux et en Gironde va très bientôt être lancée. Et puis en fin d'émission, il y aura les clés des libertés avec Amnesty International et la lutte pour la notion de genre après 13h à 13h à Cétone, rediffusion de l'émission d'hier sur notre antenne hier à 17h. On commence avec quelques infos. Bonjour Léa.
Bonjour Baptiste.
Et pour commencer, les journalistes de Sud-Ouest étaient en grève hier.
Oui, ils dénoncent le projet de réorganisation du journal présenté ce mardi par le directeur général Nicolas Sterckx. En 2024, la direction prévoit la suppression de 118 postes, dont 25 journalistes, ce qui représente 10% de la rédaction. Trois agences devraient également mettre la clé sous la porte à Oloron-Sainte-Marie, à Orthez, dans le Béarn, et à Sarlat, en Dordogne. Particulièrement touché, le Béarn pourrait également voir la suppression de 3 postes de journaliste et d'un poste d'assistante dans son bureau de Pau. En 11 ans, c'est le 4e plan social qui est imposé à Sud-Ouest. Pour David Patsouri, élu au CSE et membre du CNJ, cité par Rue89, supprimer encore des postes de journalistes est une logique mortifère. Il n'est pas de stratégie viable au plan économique qui ne passe pas par l'information, donc la rédaction. Comment espérer endiguer l'érosion des ventes papier et prétendre la compenser par la conquête d'abonnés numériques sans proposer plus et surtout mieux d'informations régionales?
Et puis, situation critique aussi dans d'autres médias, notamment du côté de Radio France, où la direction ne cesse de rogner sur les rédactions.
La présidente du réseau France Bleu, Céline Pigalle, dit vouloir plus de proximité, mais en supprimant des journaux locaux. Ainsi, à France Bleu Picardie, les journaux locaux de la demi-heure dans la matinale vont être réduits à de simples flashs. La CGT de Radio France déplore un énième retour en arrière et un affaiblissement du service rendu aux auditeuristes. Le syndicat se demande comment les minutes laissées vacantes vont être comblées, puisqu'il n'y aura toujours que deux journalistes pour assurer la matinale. Au même moment, Radio France prévoit de fusionner les services sciences, santé et environnement de France Inter, France Info et France Culture pour créer une nouvelle rédaction thématique transverse. Cette logique a déjà été mise en œuvre pour les services sport et international et va tout simplement accroître l'uniformisation du traitement de l'information sur les différentes stations, dénonce là aussi la CGT de Radio France. À chaque fusion, je cite, il nous a été dit que c'était la dernière, poursuit le syndicat. Chaque étape nous rapproche d'un démantèlement général des rédactions. Pourquoi casser ces collectifs de travail qui font la force de nos antennes? Ce ne sont pas seulement les journalistes, mais aussi les auditeurs qui sont attachés à leur chaîne, avec leur voix et leurs différences. Défendre cette pluralité, c'est aussi défendre l'indépendance des médias, des services publics indispensables à un débat démocratique serein et que nous savons menacer.
Et puis, après le salon de l'agriculture, la mobilisation des agriculteurs se poursuit.
Oui, ce matin, le collectif Viti 33 a bloqué la centrale de distribution Lidl de Cestas, avec ce slogan « Non au prix qui nous tue ». Et cet exemple, une pub pour un vin de Bordeaux vendu à 1,89 la bouteille, collé à un mannequin lui-même pendu à une potence. Dans cette bouteille à 1,89, lorsqu'on retire le coût de la bouteille, du bouchon, de l'étiquette et des marges, il reste 65 centimes de vin, 65 centimes payés aux viticulteurs, expliquent ces mêmes viticulteurs sur France Bleu Gironde. Or, je cite, il faudrait le double pour vivre, selon eux. Demain, c'est la Confédération paysanne de Dordogne qui se mobilisera dans une action conjointe avec l'association Agrobio Périgord. Ils protesteront contre le retard de paiement des aides prévues par la politique agricole commune, la PAC. Les agriculteurs ont été informés que ces paiements ne pourront pas être effectués avant la fin du mois d'avril et l'État invoque des raisons informatiques. Le gouvernement s'était pourtant engagé au mois de février à ce que les aides soient versées d'ici au 15 mars. Les deux syndicats appellent aujourd'hui à un paiement immédiat. Le rendez-vous est donné à 11h devant la cité administrative de Périgueux.
Et pour terminer, tu nous rappelles, il y a deux rendez-vous qui ont lieu ce soir à Bordeaux.
Oui, ce soir à 18h, soirée de soutien au CLAP 33, le collectif de lutte contre les abus policiers au Café Pompier. Et ce sera aussi ce soir le lancement de la semaine de rencontres artistiques et culturelles autour des exils et sur les traces de Flora Tristan, organisée par l'assaut Pourquoi pas 33 à l'Inox à partir de 18h30.
Merci beaucoup Léa.
Merci.
Midi 15 sur la clé des ondes, la sécurité sociale de l'alimentation sera très bientôt expérimentée à Bordeaux et en Gironde. Ça fait un moment qu'on vous parle de cette notion et du collectif qui tente de la mettre en place localement. On peut vous conseiller d'écouter ou de réécouter les trois émissions Climat de lutte consacrées à ce sujet. La dernière, c'était le 29 juin 2023. Aujourd'hui, après plus d'un an de travail, l'expérimentation donc, elle est sur le point de commencer avec quatre caisses locales d'alimentation qui vont être créées, alimentées et puis distribuées à des participants à cette expérimentation. On va parler de tout ça, développer tout ça avec des membres de cette histoire que je salue. Estelle Salavoutas, bonjour.
Bonjour.
Tu travailles au Centre social Bordeaux Nord, et notamment à la MIAM, sur la MIAM, la Maison interculturelle de l'alimentation et des mangeurs, et donc le CSBN qui a rejoint cette démarche. Peut-être tu nous préciseras un peu comment. Et puis Lucille Lucas, bonjour.
Bonjour.
Toi, tu es salarié de l'association Acclimat Action qui porte donc le projet de sécurité sociale de l'alimentation. On va pouvoir dire SSA parce que c'est long quand même, sécurité sociale de l'alimentation, ici à Bordeaux et en Gironde. Alors peut-être pour commencer, revenir, redire un mot sur ce que c'est ce principe, cette notion de SSA, Lucille.
Oui. Donc la SSA, donc sécurité sociale de l'alimentation, c'est un projet qui est émané en fait d'un constat que le système alimentaire aujourd'hui ne répond plus à des enjeux sociaux, économiques et environnementaux. Par exemple, que le système alimentaire ne permet pas de rémunérer justement les producteurs et productrices, qu'il ne permet pas non plus aux mangeurs et mangeuses en fait de manger, d'accéder à une alimentation de qualité, saine et durable, et qu'il ne répond pas aux enjeux de transition écologique. Et donc, face à ce constat, émane le projet de sécurité sociale de l'alimentation qui est porté en France par un collectif, le collectif national de la pour une SSA, et qui est composé d'acteurs, d'associations, d'organisations nationales et aussi de citoyens, les organisations comme par exemple ISF Agrista ou le réseau CIVAM ou encore VRAC et le réseau Salaria, mais aussi la Confédération Paysanne.
Donc plein d'assos à la fois d'ingénieurs agronomes, de paysans, de consommateurs,
oui, voilà.
D'ingénieurs.
De tous les acteurs, en fait, parties prenantes de ce système alimentaire. Et donc la sécurité sociale de l'alimentation, elle repose sur trois principaux piliers qui sont l'universalité, le fait que il doit y avoir un droit à l'alimentation, en fait, qui doit être accessible, enfin qui doit être pour tous, que l'alimentation c'est une affaire de tous, c'est pas un luxe. Un deuxième pilier qui est le conventionnement démocratique. Les mangeurs et mangeuses devraient choisir l'alimentation auquel ils devraient avoir accès, ils devraient choisir le système alimentaire qu'ils voudraient soutenir.
Quand tu dis, on va y revenir tout à l'heure, mais conventionnement, c'est-à-dire que l'argent qui va être attribué, c'est comme la sécurité sociale, et il y a des médicaments qui sont conventionnés, et donc auxquels on peut avoir accès avec l'argent de la Sécu, et donc là, ce serait pareil, il y aurait des producteurs, des magasins auxquels on a droit avec l'argent de la SSA, c'est ça?
Oui, c'est ça. C'est en fait comme dans la santé, on aurait une sorte de carte vitale de l'alimentation où un certain budget, une certaine allocation serait dédiée à l'alimentation qu'on pourrait utiliser dans certains points de vente, certains commerces ou producteurs qui répondraient donc à des critères définis par les mangeurs et mangeuses en fait. Et donc le troisième pilier, c'est la cotisation sociale. Cette allocation qui leur est versée, elle est financée en fait par une cotisation qui, dans l'idée de la sécurité sociale de l'alimentation nationale, interviendrait avant la redistribution et donc permettrait d'être indépendante de l'État et de constituer un réel levier en fait de solidarité entre les mangeurs et mangeuses.
Trois piliers qui sont déjà effectifs pour ce qui est de la sécu qu'on connaît, qui existe, donc la santé, l'accident du travail, la vieillesse, l'autonomie et la famille, les enfants, c'est ça, les cinq piliers, les cinq domaines qui sont concernés aujourd'hui par la sécu en France. Peut-être comment de ce principe, de ce collectif national, on en est arrivé à une envie d'expérimentation, d'expérimenter ça ici à Bordeaux et en Gironde, comment ça s'est fait?
Oui.
Estelle?
Il y a trois ans de ça, le collectif Acclimat Action, à peu près 3 ans, s'est engagée à réfléchir sur les questions d'accès à l'alimentation, à une alimentation saine, durable, de qualité, pour tous et toutes. Et elle œuvre aussi en faveur du développement d'une démocratie alimentaire. Donc, ces deux préoccupations essentielles à ce collectif nous a amené à expérimenter dans un premier temps avec des habitants, des cuisines de rue, pour aller prendre la parole, tester un petit peu, savoir prendre connaissance des habitudes des personnes dans les quartiers, dans la ville, pouvoir discuter de ce qui fait frein ou ce qui va bien du côté de l'alimentation.
Qu'est-ce qui en est ressorti alors ?
Je pense que ce qui ressort par rapport aux habitants, c'est qu'ils aimeraient bien choisir concrètement et réellement l'alimentation qu'ils ont envie de mettre dans leur assiette, et qu'à ce jour, l'ensemble de la population ne peut pas le faire, et cet ensemble, ça représente une partie de plus en plus importante de la population qui mange ce qu'elle peut, quand elle le peut.
Pour une question d'argent.
Pour une question essentiellement financière, en effet. Donc fil en aiguille, face à ce constat, on est passé à la réflexion, on est allé voir ailleurs, parce qu'il faut, il faut trouver des idées inspirantes, et je crois que ça c'est essentiel, et la sécurité sociale de l'alimentation nous paraissait une possibilité, en tout cas nous semblait important d'aller chercher en termes d'expérimentation sur un territoire et de mettre en place une expérimentation avec des citoyennes et des citoyens. Donc c'est un peu comme ça qu'on a tricoté sur le territoire cette question d'aller expérimenter. Alors bien sûr, pas une sécurité sociale de l'alimentation telle que vient de nous le décrire Lucille, mais on va commencer de là où on est. Hein. On est sur un territoire, donc à mettre en place une caisse commune de l'alimentation en Gironde, et on verra après pourquoi en Gironde, et donc mettre en place 4 caisses locales, parce que sur le territoire de la Gironde, il y a 4 territoires qui sont concernés par l'expérimentation. Il y a 2 territoires en milieu rural, 2 territoires en milieu urbain, Bègle, Bordeaux, Sud-Gironde et le Pays Foyen.
Donc Sainte-Foy-la-Grande dans l'Est du département.
Absolument. Alors,
il faut dire peut-être que ça a rencontré aussi une volonté politique à ce moment-là, à la fois du département de la Gironde, de la ville de Bordeaux ou de la métropole.
C'est la rencontre avec les politiques qui avaient eux aussi, en tout cas, cette envie de mettre en travail les questions alimentaires. Donc fortement, le département et le conseil départemental et la mairie de Bordeaux avaient envie eux aussi, et nos chemins se sont croisés, de mettre en place un travail et une expérimentation autour de cette sécurité sociale de l'alimentation. Donc, on a plusieurs partenaires, je vais les citer, c'est important. Donc, il y a bien des citoyens, des associations, des chercheurs dans notre expérimentation, et puis des institutions. Donc, les institutions, c'est le département de la Gironde, la ville de Bordeaux, Bordeaux Métropole, la région Aquitaine, la DRETS, la ville de Bègle et la fondation Carasso et l'ADEME.
La DRETS, c'est la direction de l'emploi,
oui,
c'est ça ?
Oui, absolument.
Pourquoi ?
Rapidement, faire un raccourci, c'est l'État, la DRETS.
Qu'est-ce qu'ils viennent faire dans cette expérimentation ?
Eh bien, ils financent une partie des professionnels d'Acclimatation.
D'accord, très bien. Comment on est passé alors de cette notion un peu générale, avec cette volonté d'universalité, etc., à un dispositif qui puisse être expérimenté localement, concrètement, sur un espace réduit, avec un financement réduit là aussi ? Comment il s'est fait ce passage d'une échelle à l'autre, avec peut-être quel questionnement au passage ? Estelle ?
Alors, en amont de l'expérimentation, on a travaillé avec des citoyens sur les 4 territoires. On a mis en place des parcours citoyens pour réfléchir et faire culture commune autour de l'alimentation et déconstruire les représentations que l'on a tous. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de meilleur élève ici.
On en avait parlé notamment avec l'asso VRAC qui bosse toujours là-dessus avec Pop-Up Story. C'était dans le plein de licence en fin janvier, je crois, dernier.
Oui, il y a vraiment plusieurs acteurs, dont des lieux. Hein. En effet, il y a VRAC, il y a des lieux comme Local Attitude, La Carotte et le Lapin qui se sont joints à nous. Mais dans tous les cas, 10 citoyens par territoire ont œuvré pendant 6 mois sur des parcours autour de ces questions alimentaires et sur la réflexion d'une charte pour pouvoir conventionner des lieux.
Oui, c'est ça. En fait, la charte commune de conventionnement, c'est en fait la concrétisation du pilier de conventionnement démocratique. Donc pendant plusieurs mois, les participants ont réfléchi à quelle alimentation ils souhaitaient avoir accès avec cette expérimentation. Et donc ils ont travaillé tous ensemble, les 4 territoires, pour pouvoir justement faire confronter en fait aussi les rapports à l'alimentation entre territoires urbains, territoires ruraux. Et ils ont abouti à une charte commune de conventionnement qui présente les critères que devront respecter les points de vente conventionnés, donc producteurs, RIS et distributeurs. Et donc aujourd'hui, on est avec ces participants dans les territoires en train de récupérer, d'aller chercher les points de vente qui feront partie de l'expérimentation.
D'accord, ça c'est pour le conventionnement. Pour la question de l'assiette, comme on dit, sans jeu de mots, c'est-à-dire qui participe, qui en tant qu'individu peut participer, comment ça s'est fait là aussi, ces réflexions-là avec les personnes ont permis d'aboutir à ce qui va être expérimenté concrètement ?
Alors oui, on a commencé donc avec 10 personnes par territoire et petit à petit, on s'est ouvert aux autres personnes qui souhaitaient participer au projet, qui étaient intéressées par l'idée de cette expérimentation, avec des acteurs aussi locaux, donc comme a dit Estelle, des épiceries, Local Attitude, La Carotte et le Lapin ou Supercop. Et là, aujourd'hui, on est en phase de recrutement pour constituer le panel de notre expérimentation qui sera de 400 personnes, soit 100 personnes par territoire et qui vise à représenter en fait être un panel représentatif de la population girondine, mais avec une surreprésentation des personnes qui sont en situation de précarité.
D'accord. Donc en gros, concrètement, voilà à qui ça va s'adresser, qui va pouvoir rentrer dans cette expérimentation maintenant ?
Alors,
Estelle ?
Tout le monde peut participer à cette expérimentation à condition de faire partie des territoires que l'on a énoncés. Pour Bordeaux, c'est les quartiers nord, c'est-à-dire Bacalan, Benoges, Saint-Louis et Aubier, ainsi que la Benoge, pas la Bastide, la Benoge. Donc voilà, ça c'est une condition à laquelle on ne dérogera pas. Même si les personnes se préinscrivent. On ne peut pas aller au-delà des 100 personnes. Et puis, s'il y a plus de personnes qui se préinscrivent, nous mettrons en place un tirage au sort par catégorie de foyers.
Et par, catégorie de revenus et composition de foyers. On essaie d'avoir aussi des familles, des personnes seules, d'essayer de représenter le territoire le plus fidèlement, on va dire, possible.
Oui, absolument. Ce qui est un sacré casse-tête d'ailleurs, mais qui est important si on veut que ce soit représentatif. Mais ça va très vite, 100 personnes, ça fait une quarantaine de foyers. Voilà.
Oui, j'imagine la difficulté, c'est qu'on a envie, ou vous devez avoir envie, que cette expérimentation serve tout de suite aux gens à profiter de cette notion, de cette idée-là, de ce principe. Et en même temps, il faut que ce soit c'est une expérimentation. Donc j'imagine qu'il y a une question de scientificité, en tout cas d'arriver à en tirer des leçons qui puissent être utilisées et qui puissent mettre du poids aussi pour que ça passe à une échelle nationale, on en reparlera peut-être après. Oui. Donc vous nous avez dit à qui ça allait s'adresser, comment ça va marcher, fonctionner ensuite, donc chacun sera amené à contribuer en fonction de ses moyens, c'est ça ?
Oui.
Oui, Lucille ? En fait, c'est chacun donc contribue en fonction de ses moyens et reçoit selon ses besoins. Donc ça commence en fait le premier mois par exemple, les participants cotisent, une cotisation qui est autodéterminée en fonction de leur situation.
C'est-à-dire c'est eux qui choisissent ?
Oui, c'est ça. Ils sont accompagnés pour comprendre quels sont les enjeux qu'il y a derrière la cotisation et à quel objectif on tend. L'objectif étant d'être financé, que le projet soit financé à 40% par les cotisations. Et après, la décision revient aux participants. Et au moment où en fait il cotise, cela déclenche donc son allocation qui elle est définie en fonction des personnes qui constituent son foyer, du nombre de personnes qui constituent son foyer et non pas de ses revenus. Mmh. Et il a donc après un certain montant, une certaine allocation qui est en mona. C'est la monnaie alimentaire qui a été créée en fait pour ce type d'expérimentation et qui est utilisée également dans une autre expérimentation à Montpellier. Et cette mona, ils pourront ensuite l'utiliser dans les points de vente qu'ils auront conventionnés. Le conventionnement étant... ayant démarré aujourd'hui, mais étant un processus qui continue toute l'année, où on peut, chaque participant peut apporter sa pierre au conventionnement, proposer des nouveaux points de vente, des nouveaux produits aussi, parce que tous les produits ne seront pas conventionnés.
Alors, on va revenir sur cette partie-là, mais sur donc, le montant, donc les cotisations seront libres, mais donc vous faites le pari qu'elles permettront quand même d'arriver à 40% de financement de la caisse.
Absolument.
C'est ça ? Donc
oui,
c'est un pari qui est osé, qu'on pourrait juger osé en tout cas.
Eh bien, en tout cas, le retour de l'expérience sur Montpellier nous amène à penser que ça ne peut que être positif. En fait, on l'espère. En tout cas, à Montpellier, ils comptaient aussi sur 40% de cotisation. Ils sont arrivés à presque 60%.
Ah
du
oui.
coup, ils comptent. Alors, ils sont en avance. Montpellier, ça fait un an qu'ils expérimentent, hein, et ils sont très inspirants aussi pour nous. Hein, on échange pas mal. Et de fait, ils continuent l'expérimentation puisqu'ils ont un budget qui leur permet de la continuer. Donc, c'est un point qui est essentiel de comprendre la cotisation et de savoir pourquoi on cotise, parce qu'on cotise pour soi et que. Au travers de ça, c'est pas que la démarche individuelle, c'est-à-dire que ce projet ne peut fonctionner que si collectivement, que s'il y a une pensée et une envie collective. Si chacun met le minimum, de toute façon, ça s'arrêtera. voilà. Donc, la cotisation est un enjeu, mais c'est aussi une reprise de pouvoir de chacun d'entre nous sur ce. Là où on souhaite mettre l'argent quand on en a suffisamment. Et quand on n'en a pas assez, on met chacun selon ses moyens, ce que tu nous disais. Et ça, vraiment, c'est hyper important. Tout comme ce qui est important, c'est que chacun d'entre nous sache que participer à cette expérimentation, c'est aussi s'investir dans le projet. Là aussi, quand c'est possible, hein, des fois ça peut ne pas être possible, mais il faut... Évidemment, participer au bon fonctionnement, trouver des nouveaux lieux. Tout n'est pas fait, enfin, tout n'est pas clé en main quand on débarque. Il faut qu'on continue à travailler avec les personnes qui vont intégrer cette expérimentation. Donc, ce qui fait aussi partie du recrutement, c'est de participer à une des réunions d'information, parce que, c'est pas juste une cotisation qui déclenche des monas et du coup, je vais faire mes petites courses. Non, c'est pas que ça, c'est comprendre dans quel système on est en train d'essayer de rentrer, de défendre collectivement.
Mmh. Oui, c'est-à-dire c'est pas qu'une position de consommateur, même s'il s'agit de consommation, mais c'est pas juste je donne, je cotise, je reçois, mais je m'implique dans le processus collectif aussi et politique et démocratique, comme on disait tout à l'heure, de décision autour de ces questions-là.
Oui, puis c'est une belle aventure où tout le monde grandit ensemble, en fait. C'est ça qui est important, je pense.
Donc on disait l'objectif c'est 40% de financement de la caisse par ces cotisations, ça veut dire que les 60 autres c'est des fonds publics ?
Oui, pour l'instant c'est des fonds publics.
On n'a pas donné le montant qui sera perçu par chaque personne ou foyer ?
Oui, alors le montant c'est une base donc de 75 € par foyer et 75 € par personne qui constitue le foyer. Donc par exemple une seule personne... Elle a 75 € pour son foyer et 75 € pour elle, donc ça monte à 150 € pour une personne. Et voilà. Après, il faut rajouter 75 € par autre personne du foyer.
Comment ça a été défini, ce montant-là ? Est-ce qu'on dit qu'avec 75 € on peut s'alimenter convenablement pour un mois, pour une personne ? Ou quel a été l'arbitrage un peu sur ce montant ?
Ah oui, donc 150 €, oui, ça ne sort pas du chapeau. C'est un long travail de recherche, notamment par Nicole Darmon, qui a justement étudié quel était le montant par jour pour pouvoir s'alimenter de manière, de qualité et de manière saine. Et donc c'était de l'ordre à peu près de 5 €, je crois, par jour. Et donc pour une personne, ça remonte à 150 € par mois, mais ce calcul ayant été fait avant l'inflation.
D'accord. Et Nicole Darmon, elle travaille...
Elle est
chercheuse, c'est ça ?
Diététicienne.
Diététicienne.
Okay. Donc oui, j'ai compris, 75 €, c'est 150 € par personne, plus 75 par nouvelle personne dans le foyer ?
Oui, c'est ça.
Très bien.
Oui, et par personne, enfants aussi, hein, les enfants étant une personne à part entière.
Peut-être un mot donc, sur les établissements et producteurs, vendeurs conventionnés. Donc, pour l'instant, alors peut-être on va parler surtout de ce qui se passe là dans le quartier. Il y a deux épiceries, c'est ça, qui sont conventionnées dans notre quartier, il y en a plus ?
C'est en cours, c'est pas encore cet après-midi le verdict citoyen.
D'accord.
C'est justement voilà, le conventionnement, un long processus pour voilà, respecter une prise de décision démocratique. Donc on est en discussion avec eux. On a, finalement, le conventionnement, c'est deux choses. C'est une auto-évaluation. Donc c'est en fait basé sur la confiance. On demande au point de vente de regarder la charte et de nous dire s'ils sont en accord dans leur pratique avec nos attentes.
Qu'est-ce qu'elle dit, cette charte, en quelques mots ? Alors, beaucoup de choses, mais en deux mots.
En cinq mots, du coup, parce que c'est cinq critères. La charte, elle dit donc qu'il faut que le point de vente soit accessible et inclusif, qu'il respecte le bien-être au travail des personnes qui s'impliquent dans ce point de vente, qu'il permette la transparence et la juste rémunération des producteurs, qu'il propose des produits issus de pratiques agricoles durables et des produits au maximum locaux.
Okay.
Donc voilà, le point de vente se s'auto-évalue sur ces cinq critères et on organise une rencontre avec les membres, pour l'instant les participants qu'il y a aujourd'hui, mais les futurs membres de la caisse ensuite, pour un peu découvrir comment ça se passe et puis commencer à échanger avec ces points de vente. C'est ça l'important du conventionnement, c'est en fait de créer un lien entre les mangeurs et mangeuses et les distributeuristes et les producteuristes. Et donc ensuite se fait le verdict et c'est là où on verra cet après-midi.
Ok, donc on pourra annoncer plus tard, peut-être la semaine prochaine sur notre antenne, qui seront les conventionnés. Donc la monnaie, tu as parlé de la Mona, comment ça va marcher ? C'est une monnaie dématérialisée ? Comment ça se passe ?
Oui, on dit que c'est une monnaie, mais en fait c'est plutôt un outil numérique. C'est chaque personne a un compte sur un site internet, le site de la Mona, et perçoit du coup un certain montant, par exemple 150 Mona sur son compte, qu'il va pouvoir après utiliser dans les points de vente qui auront eux aussi un compte. Et ça se fait comme ça, c'est un transfert de monnaie virtuelle, et le point de vente reçoit après les remboursements tous les à peu près deux semaines des Mona qu'il a accumulé dans le temps.
Oui, ça demande à tout le monde un effort, hein, que ce soit pour les partenaires, productrices, producteurs et les alimentations, peu importe, ou pour les citoyens, parce qu'en effet, il y a une petite gymnastique, il y a une autre façon d'envisager ses courses, son alimentation. Voilà, c'est ça aussi, ça nous demande ça demande à chacun de se décentrer de ses habitudes et d'en trouver des nouvelles, et ce qui n'est pas facile de déconstruire des habitudes, c'est pas si simple. Donc voilà, c'est aussi ça, cette expérimentation, je trouve.
Oui, et de voir est-ce que ça va être un frein, est-ce que ce changement d'habitude qui peut être perçu comme une lourdeur va être un frein pour les participants, participantes ou pas.
Absolument.
Comment ça va se passer tout au long de l'expérimentation ? Tu parlais de réunions qui vont avoir lieu où donc les participants seront invités à venir participer à ça. Il y aura des temps d'études un peu. Enfin, comment ça va être observé ? Qu'est-ce qui va être analysé et qu'est-ce qui sera dans la conclusion ? Enfin, quels éléments vont être observés particulièrement dans la conclusion pour, j'imagine, en tirer des leçons ?
Alors d'abord, les personnes seront invitées, oui, à participer aux caisses, hein, aux caisses locales, et donc à tenir des permanences chaque mois pour pouvoir inscrire et faire rentrer les deniers, les euros, pour qu'ils se transforment en Mona. Mais sur la question plus scientifique, en effet, il y a le comité scientifique qui va suivre et qui continue, hein, qui est là depuis le début en plus, donc qui prend note de l'ensemble du travail qui est mené. Hein, c'est un énorme travail qu'ils sont en train de documentation qu'ils sont en train de faire. Et justement, dans l'inscription des participants, dans l'inscription des participants à l'expérimentation, il y a aussi le fait que les participants devront faire des retours et seront interpellés par les chercheurs, chercheuses, autour de leurs habitudes alimentaires, autour de finalement qu'est-ce qu'ils consomment, comment, je ne sais pas tout exactement, mais bien sûr autour de, est-ce que ça vient changer, est-ce que ça a changé des choses dans leur rapport à l'alimentation, dans leur quotidien, est-ce qu'il y a des freins, est-ce qu'il y a des choses qui sont trop complexes, je sais pas. On va commencer au début, ben, il y aura pas beaucoup de lieux, donc il va falloir aussi étudier ces questions-là, se donner du temps et de la patience aussi pour pouvoir tisser tranquillement et avancer. C'est une expérimentation, donc on le disait tout à l'heure, tout n'est pas clé en main. Donc à la fois, il y a le fait d'aller chercher et de continuer à avancer dans l'expérimentation et à la fois le fait de prendre du recul, d'avoir un éclairage qui va être fait par ces chercheurs, chercheuses.
Peut-être on peut redire, alors il reste deux réunions d'information qui ont lieu ce week-end, ce samedi, au Centre social de Bordeaux Nord.
Et à la Benoge aussi.
À 16h.
À 16h. Et la Benoge, c'est à la maison du projet. Et pour Bordeaux Nord, c'est au Centre social et familial Bordeaux Nord.
Donc à 16h ce samedi. Donc il faut participer aux réunions d'information pour ensuite pouvoir s'inscrire.
Oui, c'est rédhibitoire. Si on n'a pas participé à une réunion, on ne pourra pas. On peut se préinscrire, mais on ne sera pas tiré au sort.
Et donc être habitant d'un des quartiers qui font partie de l'expérimentation.
Impératif. Pas d'exception à la règle.
Et donc les candidatures, c'est jusqu'au 13 mars. Il y aura un tirage au sort.
Le 14, oui. Au département.
C'est ça.
Et ensuite, ça commence quand ?
Alors, ça commence dans le courant avril et la journée de lancement.
Et le 19 mars.
Le 19 mars déjà, ce sera le lancement à la Fabrique Paula, c'est ça ?
C'est ça. Oui. Mais c'est sur invitation. Ah. On ne peut pas mettre 500 personnes à la Fabrique Paula. Donc les personnes qui auront été bien sûr tirées au sort, et il y aura des invitations qui seront faites, mais on ne peut pas faire que tout le monde puisse venir sur ce temps.
Tirage au sort, ça veut dire qu'il y a plus que le nombre de participants possible. Est-ce que ça veut dire que déjà c'est un succès et déjà sans vouloir tirer des conclusions hâtives, on viendra là-dessus bien sûr quand il sera à temps, mais il y a déjà un intérêt, un succès de cette idée-là.
Un succès, je ne sais pas, mais dans tous les cas, un intérêt, c'est ça qui nous est. C'est ce que ça nous permet d'évaluer, le fait qu'il y ait déjà beaucoup plus de personnes que de possibilités, sans qu'on ait fait un tapage extraordinaire. Hein, il n'y a pas des pubs partout, il n'y a pas tout ça. Mais on voit bien qu'il y a des citoyens qui ont envie de prendre leur alimentation en main, et plus peut-être.
Vous disiez tout à l'heure qu'il y a d'autres expérimentations en cours en France, notamment à Montpellier, donc qui est un petit peu en avance, d'autres endroits aussi. Je ne sais pas s'il y a des choses à dire un peu là-dessus, et surtout comment est-ce que de ces expérimentations locales, on peut ensuite repasser à une échelle nationale, et est-ce que ça tisse petit à petit aussi un programme politique national. On sait que la sécurité sociale, elle est arrivée parce que des caisses locales avaient été mises en place auparavant dans plein de domaines. Est-ce qu'il pourrait se passer la même chose dans les années à venir pour une sécurité sociale de l'alimentation ? Lucille ?
Oui, c'est ça. Au sein du collectif national font partie justement toutes les petites expérimentations locales pour participer à un plaidoyer national d'une loi d'expérimentation. Donc pour pouvoir justement permettre d'essaimer en fait ces expérimentations dans toute la France. Le département aussi participe énormément à ce plaidoyer national. Donc nos expérimentations sont là pour commencer à tirer les premières conclusions et éclairer et donner envie en fait à d'autres territoires de s'emparer de ce sujet.
Très bien. Donc, on continuera à suivre ça, bien sûr, avec grand intérêt sur la clé des ondes dans les mois à venir. Et puis, rendez-vous dans un peu plus d'un an pour les conclusions.
Avec plaisir, oui. Et avec des citoyens et des citoyennes.
Merci beaucoup à vous deux, Estelle Salavoutas, donc du Centre social Bordeaux Nord et de la MIAM, la Maison interculturelle de l'alimentation et des mangeurs, et Lucille Lucas de l'association Acclimatation. Tout ça, toutes ces infos se retrouvent aussi sur Internet. On tape SSA Bordeaux, je pense, on trouve toutes les infos. Merci beaucoup à vous deux, à bientôt.
Merci.
Colombia, ay, Chichimani, Colombitana, Chichimani. muchachos son buenos.
Me hace el favor, nene.
Ay, ya está los colombianos.
Me hace el favor, nene.
Ay, ya está mi grupo entero.
Me hace el favor, nene.
Si mi negra no me quiere.
Me hace el favor, nene.
C'était Toto la Momposina, Chichi Mani, une chanson qui a été diffusée mardi soir dans l'émission Yapou, toutes les musiques consacrées aux femmes musiciennes que je vous invite à écouter ou réécouter en podcast sur laclédesondes.fr. C'est un régal comme toutes les émissions de Yapou, bien sûr. 12h46 sur la Clé des Ondes dans le plat de résistance. On arrive vers la fin de cette émission et on écoute comme chaque jeudi la chronique des Clés des Libertés qui est proposée aujourd'hui par Amnesty International. On les écoute.
Bonjour à toutes et tous. Je suis Aline Mieux-Bruno, responsable bénévole de la commission droits des femmes à Amnesty International France. J'utilise le pronom IEL. Et aujourd'hui, pour la Clé des Libertés, le groupe local bordelais d'Amnesty International m'a demandé de vous parler de la lutte pour la justice de genre à Amnesty International. Amnesty International est donc engagé pour la justice de genre, qui fait référence à un monde où les personnes de tous les genres sont valorisées de manière égale, peuvent jouir de leurs droits humains sans discrimination et sur une base égale, et sont en mesure de partager équitablement la distribution du pouvoir, des connaissances et des ressources. De quoi parle-t-on lorsqu'on parle de genre ? Aujourd'hui, Amnesty International et le droit international définissent le genre comme l'ensemble des rôles, des comportements, des expressions, valeurs et identités établies par la société. Et c'est une construction sociale et culturelle qui est distincte du sexe biologique et qui s'exprime souvent en termes de masculinité et de féminité. Ainsi, tout le monde est concerné par le genre. Chaque individu a une identité de genre. Que vous soyez un homme, une femme, ou que vous vous identifiez en dehors du modèle binaire homme-femme, et donc que vous soyez une personne non-binaire. Mais si tout le monde est concerné, certaines personnes sont plus exposées que d'autres aux discriminations et aux violences fondées sur le genre. Et c'est là que le travail d'Amnesty International intervient. On reconnaît que les discriminations et les violences fondées sur le genre touchent les femmes, les filles et les minorités de genre de manière disproportionnée. Allez, une nouvelle définition, c'est celle de minorité de genre. En fait, c'est un terme parapluie, très pratique, qui désigne les personnes non-binaires, les personnes transgenres, les personnes intersexes et les personnes LGBTI+, en général, qui, par leur simple existence, défient les normes de masculinité et de féminité, soit les normes de genre. C'est pour cela que, lorsqu'on parle de combat pour la justice de genre, vous nous entendrez souvent utiliser la formule « droits des femmes et des minorités de genre ». Nous reconnaissons en cela les liens, mais aussi les spécificités, entre les droits de ces catégories de personnes et les alliances nécessaires pour faire respecter ces droits. Car les attaques qu'ils subissent sont parfois fondées sur des rhétoriques communes, voire sont le fait de mêmes groupes. Dans ce combat pour la justice de genre, Amnesty International se dote d'un outil essentiel, l'intersectionnalité. C'est un outil d'analyse qui permet de prendre en compte les différents rapports de domination. En fait, c'est un concept qui a été théorisé pour la première fois en 1989 par l'universitaire et juriste américaine Kimberly Crenshaw et qui permet de reconnaître que toutes les raisons pour lesquelles une personne peut être discriminée, notamment sa couleur de peau, son genre, son orientation sexuelle, son statut migratoire, sa classe économique ou encore son handicap, vont converger et se recouper. Par exemple, une femme lesbienne peut être victime de discrimination en raison de son orientation sexuelle. Elle peut aussi se heurter à de la discrimination parce qu'elle est de genre féminin. Toutefois, la discrimination en raison du genre et la discrimination en raison de l'orientation sexuelle ne vont pas agir séparément. Elles peuvent se conjuguer et se renforcer l'une l'autre, si bien que la personne devient la cible d'atteinte spécifique à ses droits fondamentaux du fait de son genre et de son orientation sexuelle. Pourquoi l'approche intersectionnelle est-elle si essentielle ? Eh bien parce qu'elle complète et elle rend possible le principe de droit universel et inhérent à la personne humaine que l'on retrouve dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est le socle et la boussole d'Amnesty International. Et en effet, l'universalité des droits, c'est un but à atteindre, c'est un idéal. Et en fait, avec l'approche intersectionnelle, on va rendre visible le fait que les discriminations fondées sur le genre, notamment, ne vont pas affecter toutes les femmes et toutes les minorités de genre de la même façon. Et c'est important de prêter attention à ces situations si on veut espérer lutter efficacement contre elles. Pour vous aider à comprendre à l'aide d'un exemple concret, en France, par exemple, seulement une minorité de personnes victimes de violences sexistes et sexuelles portent plainte. Parmi les personnes victimes de viol ou de tentatives de viol, seuls 12% portent plainte selon l'INSEE, tandis que 68% estiment que cela ne servira à rien, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, au vu des dysfonctionnements de l'appareil judiciaire. Et en effet, lors du dépôt de plainte, les femmes et minorités de genre font trop souvent face à des questions culpabilisantes ou encore à une minimisation des faits. Or, les femmes transgenres, les personnes racisées, les femmes exilées ou encore les travailleuses du sexe rencontrent des obstacles supplémentaires. Par exemple, les femmes sans papier n'oseront pas porter plainte par crainte d'être expulsées du territoire français. Une autre situation encore, celle des violences en ligne fondées sur le genre, sur lesquelles nous travaillons à Amnesty International. Les femmes et les minorités de genre sont la cible de violences en ligne et de discours toxiques qui nuisent à leur droit de s'exprimer librement et sans peur. Dans notre rapport Toxic Twitter, que nous avons publié en 2018, nous révélions l'ampleur, la nature et l'impact des violences ciblant les femmes sur Twitter. Le rapport a aussi révélé que si vous êtes une femme issue d'une minorité raciale, ethnique ou religieuse, si vous êtes handicapée, si vous êtes une personne non-binaire ou encore si vous êtes lesbienne, bisexuelle ou transgenre, ou toute combinaison de ces caractéristiques, vous êtes la cible de violences supplémentaires et particulières, ce qui risque d'avoir pour effet d'exclure encore davantage des conversations publiques des voix déjà marginalisées. L'approche intersectionnelle nous permet ainsi de mieux comprendre des atteintes aux droits commises, de mieux comprendre les obstacles qui peuvent se poser en matière d'accès à la justice et au recours pour celles et ceux qui sont victimes de discrimination. Et enfin, de mieux identifier les solutions les plus à même de répondre à la nature et à l'ampleur des violations. Vous en savez désormais un peu plus sur le travail d'Amnesty International sur les questions de genre, et nous vous invitons maintenant à rejoindre nos campagnes et nos actions pour la mise en œuvre intégrale des droits humains pour toutes et tous, pour une véritable justice pour toutes et tous.
Merci beaucoup Amnesty International pour cette chronique des clés des libertés que vous pourrez trouver en podcast sur laclédesondes.fr et l'occasion de rappeler les rendez-vous pour demain 8 mars, la journée de lutte pour les droits des femmes et de journée de grève féministe. Ça commence à 10h par un café débat organisé par les syndicats au pub Saint-Aubin, place de la Victoire. La manifestation partira de cette même place de la Victoire. Le rendez-vous c'est à partir de midi. Et puis dans l'après-midi à 16h, il y aura une assemblée générale féministe appelée notamment par l'AG féministe de Gironde sous le chapiteau de cirque sur les quais, rive droite, quai de Kéris à Bordeaux. Voilà tous les rendez-vous pour demain et on vous rappelle qu'on y a consacré une émission de plat de résistance ce mardi que vous pouvez retrouver là aussi en podcast sur notre site laclédesondes.fr.
Jamais voulu en finir avec toi, j'avais qu'on était fait pour être ensemble. Et j'avais tout le temps des coups de colère, j'finissais trop souvent avec le poing ensemble. Pour comprendre l'amour que t'as vu envers moi, t'as dû attendre me voir avec d'autres femmes. C'est pas vraiment moi qui t'ai détruit, tu l'as fait toi-même, ouais, tu voulais même plus me voir. Et même si tu me voyais avec elle, tu sais pas, c'était différent quand c'était toi. T'as baisé ma colère, attisé ma connerie, j'ai déjà mal, s'il te plaît, tais-toi. J'ai encore mal dormi, c'est bien toi qui me réveille la nuit, mais quel cauchemar. Plus envie de revivre ce genre d'amour, c'est toujours toi mon histoire. Je voyais des formes dans chacun de leurs corps. Je vais tout recommencer avec toi et sans même faire d'efforts. Mais j'ai toujours un peu peur. J'ai braqué l'arme, j'ai le doigt sur la gâchette. sais pas te plaire. Si dans tes bras, ça apaisera toutes mes crises. Je me vois pas avec une autre. Je veux ton visage, tes sourires. Allez, vas-y, viens qu'on s'exprime. Prête à sauter dans le vide. J'avoue, j'avoue, t'es la plus forte. Toi, je vais garder toute ma vie. Dis-moi, tu te rappelles du début? Je me rappelle du début. Quand je faisais tant mon but. Revenons au début. Sèche tes larmes, rappelle-toi que tout est fini. Et que c'est qu'avec toi que j'aurai ce feeling. Tu m'as touché dans le cœur, j'étais gravé sur le torse. Je chante dans mon oreille que je suis le plus fort. Et donne-moi ce pouvoir. Je te donne de l'espoir quand, quand t'es seul dans le noir. Quand t'es seul dans le noir. Je voyais des femmes dans chacun de leurs corps. Je vais tout recommencer avec toi. Et sans même faire d'effort, mais j'ai toujours un peu peur. J'ai braqué l'arme, j'ai le doigt sur la gâchette. Tu sais que j'ai pas de plaire. C'est dans tes bras, ça apaisera toutes mes crises. Je me vois pas avec une autre. Je veux ton visage, tes sourires. Allez, vas-y, viens qu'on s'exprime. Prête à sauter dans le vide. J'avoue, j'avoue, t'es la plus forte. Toi, je vais garder toute ma vie.
Voilà, c'était Dark Sun avec 2K et le titre Cœur sur la clé des ondes. On termine ce plat de résistance, le temps d'annoncer les programmes de notre antenne cet après-midi. À 17h, il y aura Lumière, Lumière. À 18h, le chemin des transitions en compagnie d'Oriane Pascal, coordinatrice de la Maison de la Nature et de l'Environnement de Bordeaux. 19h, Climat de lutte, une émission consacrée aux différentes luttes du collectif Balance ton port, à la lutte contre l'A69 dans le Tarn et à la préparation de l'anniversaire de Sainte-Soline. Ce sera à la fin de ce mois de mars, anniversaire de la manifestation dramatique d'il y a un an, le 25 mars 2023 contre les méga-bassines dans les Deux-Sèvres. À 20h, Yassas, la musique grecque et des rediffusions pour cette semaine. 21h, le Jazz Athletic Club et 22h, des Colasson à Colasson. Demain à midi, ce sera la rediffusion de l'émission, d'une partie de l'émission Achaïra, émission de pollinisation libertaire de la clé des ondes. Et puis voilà, et puis il est presque 13h sur notre antenne. Dans un instant, c'est la rediffusion de l'émission Acétone qui avait lieu hier en direct sur notre antenne.